Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal Belinda Bosuma.
Des combats intenses se poursuivent entre l'armée congolaise et le M23 à Rugari, environ 40 km au nord de Goma. Entre-temps, le premier jour d'occupation de Kiwanja et Rutshuru hier par le M23 a été très agité, rapportent plusieurs sources. À Beni, cette réunion de réflexion autour de la problématique d'accès à l'information fiable en cette période de l'état de siège au Nord Kivu. Les participants ont soulevé les défis auxquels font face les médias. La rencontre a été initiée par le collectif des radios et télévisions communautaires du Nord Kivu. Et puis, Sud Kivu, 10 chefs d'établissement scolaire suspendus en une semaine. C'est après enquête sur terrain par des commissions mises en place pour identifier et sanctionner les auteurs des antivaleurs. Pour en parler, nous recevons Simon Zono, le provède Sud Kivu 1. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Nord Kivu. Des combats intenses se poursuivent entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 dans le groupement de Rugari. C'est environ 40 km au nord de la ville de Goma, dans le territoire de Rutshuru. Selon des sources sur place, ces combats se concentrent particulièrement dans la localité de Kigarama. Pendant ce temps, au nord du territoire de Rutshuru, le premier jour d'occupation de Kiwanja et Rutshuru par les rebelles du M23 a été très agité selon de nombreux témoignages. Pierrot et Laminji nous en parlent.
Au niveau du groupement Rugari, des tirs sont entendus encore ce dimanche matin dans la zone des Kigarama, précisément dans les environs immédiats de la paroisse catholique de Rugari. D'autre part, l'armée congolaise continue de pilonner les positions occupées depuis quelques jours par les rebelles du M23 en Gougo et Niesisi dans les groupements voisins des Kisigari, indiquent les sources concordantes. Ces détonations qui sont entendues depuis hier samedi par les populations de Kibumba et Buumba dans les territoires des Niragongo qui continuent de fuir les milieux. Rugari aussi s'est déjà vidé de presque le tiers de sa population. Certains habitants sont restés bloqués dans les villages en raison de la difficulté de trouver un passage, affirment certaines sources de la société civile. En ce premier jour d'occupation par les rebelles du M23 des communes rurales de Kiwanja et Rutshuru, la situation reste extrêmement tendue. Nos sources sur place indiquent qu'après le repli de l'armée loyaliste vers Kaunga et Mabenge, plus au nord de Kiwanja, un calme précaire règne dans le milieu. Toutefois, ces sources parlent des scènes de pillage des biens par certains bandits locaux, mais aussi d'au moins 2 morts parmi les civils, dont un enfant et un cadre de l'EPST, et plusieurs blessés par des balles tirées par les rebelles lorsqu'ils faisaient leur entrée dans ces entités.
Et justement, face à cette agression, le Conseil supérieur de la défense demande au gouvernement d'expulser Vincent Karega, ambassadeur plénipotentiaire du Rwanda, en poste en RDC, ce dans les 48 heures après sa notification. C'est en raison d'une part de la persistance du Rwanda à agresser la RDC et à appuyer le mouvement terroriste du M23 qu'il instrumentalise à cette fin, et d'autre part, je cite, du mépris teinté d'arrogance des autorités rwandaises vis-à-vis tant du processus de Nairobi que de Luanda. Ceci ressort de la réunion du Conseil de la Défense présidée hier à Kinshasa par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Un communiqué signé par le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya précise qu'il a été question de faire le point de l'évolution de la situation sécuritaire dans le Nord Kivu, marquée particulièrement par une série d'attaques et l'occupation de quelques localités congolaises dans le Rutshuru par le M23 appuyé par l'armée rwandaise. D'autres détails avec Paul Matendo Mayamba.
Le Conseil supérieur de la défense demande également au gouvernement d'envoyer en toute urgence une mission humanitaire pour porter une assistance aux populations déplacées à la suite de ces attaques, prendre de nouvelles mesures supplémentaires des restrictions d'accès au territoire congolais à l'encontre du Rwanda, accroître la force de frappe des forces armées et de sécurité, mais aussi réaffirmer la volonté de la République démocratique du Congo de rester engagée dans le processus de paix de Nairobi et de Luanda en vue de restaurer durablement la paix, la sécurité et la stabilité dans la région des Grands Lacs. Il a aussi rappelé la recommandation du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, c'est de s'abstenir de tout type de discours, actes de violence ou de stigmatisation contre les communautés congolaises rwandophones pour ne pas prêter le flanc à l'ennemi, dit ce communiqué. La même source rapporte que le Conseil supérieur de la défense encourage les services de sécurité à veiller à la stricte observance de cette recommandation en vue de préserver l'unité nationale. Cette offensive du M23 M23 appuyé par l'armée rwandaise vient de porter un coup au processus de paix de Nairobi et de Luanda engagé depuis plusieurs mois, a-t-il rappelé avant d'insister, je cite, cette aventure criminelle et terroriste a rencontré une farouche résistance de forces armées déterminées à défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Fin de citation.
Entre-temps, ce dimanche, c'est le deuxième jour de l'occupation de Kiwanja et Rutshuru par le M23. Dans un rassemblement populaire hier, les cadres de la rébellion annonçaient l'ouverture des frontières de Bunagana et Kitagoma pour permettre la relance des trafics commerciaux dans la région. Ces décisions prises par les rebelles représentent pour certains cadres locaux un manque à gagner important pour l'État congolais. L'importance économique de ces cités est peinte ici par Bernardin Nyangi.
Rutshuru Centre est le chef-lieu du territoire portant le même nom et donc le siège des institutions de l'État, de l'armée, la police territoriale et la justice civile et militaire. La cité de Rutshuru est aussi le siège de l'administration coutumière de la chefferie de Bouisha. C'est dans cette zone que se tiennent toutes les décisions. Même si Rutshuru Centre n'est pas un grand pôle économique du territoire, il représente toutefois le noyau de toutes les décisions et coordinations. La cité de Kiwanja, qui est d'ailleurs le chef-lieu actuel de la commune rurale de Rutshuru, constitue le grand et principal centre commercial du territoire de Rutshuru. C'est à Kiwanja où tous les commerçants grossistes disposent de leurs magasins. C'est de Kiwanja aussi que tous les autres commerçants de Rutshuru Centre, Rubare, Vichumbi et Buito, viennent s'approvisionner en produits manufacturés. À présent que les rebelles ont annoncé l'ouverture du poste frontalier de Bunagana alors que la route Goma-Rutshuru reste bloquée à la suite des combats vers Rugari, les cadres administratifs de Rutshuru estiment qu'il y aurait un manque à gagner estimé à des millions de dollars et qui profiterait au financement de la rébellion de 1-23 si seulement cette occupation dure longtemps.
Dans ce même chapitre, notez cet appel de quelques députés provinciaux du Nord Kivu en séjour à Kinshasa, adressé aux autorités du pays et principalement au président de la République. Dans une conférence de presse hier, Emmanuel Ngarouye, l'un d'eux, élu du territoire de Rutshuru, demande à Félix-Antoine Tshisekedi de ne plus se fier aux armées sous-régionales pour rétablir la paix dans l'est de la RDC. Par ailleurs, il encourage les 145 territoires à un élan de solidarité pour soutenir les populations du Nord Kivu. Emmanuel Ngarouye est au micro de Paul Matendo.
Nous appelons aux dirigeants des pouvoirs bien examiner toutes les décisions afin de prendre celles qui peuvent aider à quitter ces bourbiers, le bourbier de l'insécurité, l'insécurité dans laquelle les populations du Nord Kivu vont faire bientôt 3 décennies avec les mêmes acteurs, c'est-à-dire les régimes du Rwanda et de l'Ouganda. Nous appelons les députés nationaux à prendre la chose au sérieux, de pouvoir interpeller le gouvernement pour que des décisions soient prises. Le président de la République doit savoir qu'il a prêté serment. Il ne doit donc pas attendre à ce que la paix et la sécurité viennent des organisations internationales ou sous-régionales. Il doit prendre la chose au sérieux. Nous demandons la solidarité que tous les 145 territoires de la RDC, que toutes les 26 provinces de la RDC puissent considérer qu'il n'y a pas la RDC sans le Nord Kivu, il n'y a pas la RDC sans Rutshuru.
Direction l'Ituri, le site des déplacés est un lieu protégé par le droit international humanitaire et où il est strictement interdit de posséder des armes à feu. Réaction du porte-parole de l'armée en Ituri après des échauffourées hier matin entre des militaires des FARDC et des personnes déplacées au site de Roho dans le territoire de Djougou. Dans une communication faite samedi, le lieutenant Jules Ngongo condamne cette attitude qui s'observe de plus en plus dans certains sites des déplacés. Il affirme que les personnes qui utilisent des vulnérables pour leurs intérêts personnels répondront un jour devant les instances judiciaires. On écoute le porte-parole de l'armée en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo.
Le site de déplacés, c'est un lieu inviolable. On ne peut pas se promener avec des armes, des munitions, des effets militaires au sein de sites de déplacés. Mais les gens qui sont vulnérables, mais on commence à les utiliser, à voler les armes, à voler les munitions, pour en faire quoi? Et ces comportements, nous les condamnons au regard de cette situation qui commence à prendre de l'ampleur. Cette attitude rébellionneur que nous condamnons avec la toute dernière énergie, c'est inacceptable que dans des sites que nous trouvons les gens avec des effets militaires et ils utilisent pour de fins que moi et vous nous ignorons. C'est comme ça, au nom du gouverneur, nous condamnons cet acte. En même temps, nous mettons en garde le manipulateur manipulé qui manipule les vulnérables, le pauvre, et que tôt ou tard, ils seront arrêtés, jugés et condamnés. Ils subiront les châtiments suprêmes de la République.
Je vous rappelle, au moins 3 personnes sont mortes hier matin sur le site des déplacés de Ro. Tout est parti de l'assassinat par balle d'un soldat des FARDC par un civil. C'était pendant que des militaires commis à la protection de ce site étaient à la recherche d'une femme, concubine d'un élément des FARDC, qui venait de dérober une arme avec des munitions de son compagnon. Ce présumé déplacé a été abattu avec 2 autres personnes, indiquent des sources coutumières qui ajoutent que 2 autres civils et un militaire sont également blessés. Je vous l'ai dit dans le titre, à Beni, discuter sur l'accès à l'information fiable pendant l'état de siège, c'est le sujet de la rencontre d'hier entre les journalistes de Beniville et Territoire et les autorités de l'état de siège, les politiques de la place ainsi que les acteurs de la société civile. Ensemble, ils ont discuté sur la problématique d'accès aux sources d'informations sécuritaires pendant ce moment crucial où certaines libertés sont restreintes. Marc Marofimbo, reportage.
Les participants ont discuté sur les défis auxquels font face les médias et les journalistes qui travaillent en ville et territoire de Beni pendant cette période de l'état de siège. Moustapha Moulonda, président de l'UNPC Beni, en énumère quelques-uns.
Vous allez vous rendre compte que la communauté veut toujours donner une ligne de conduite. Elle veut mettre des choses à publier dans les bouches des journalistes, oubliant que les journalistes sont indépendants. De même, du côté également des acteurs de protection, ils veulent que les journalistes disent les choses pour les faire plaisir. On comprend, c'est une période spéciale où les gens aussi doivent travailler de manière spéciale, mais il faut savoir que la population a besoin de l'information.
Conscient de ces difficultés, les autorités ont promis d'accompagner les médias tout en appelant ces derniers au professionnalisme dans le traitement des informations. Le commissaire supérieur principal Narcisse Kachalemouteba, maire de la ville de Beni.
Je vous exhorte à une citoyenneté responsable et surtout que le sens des responsabilités doit vous animer pour l'honneur de notre pays, ce qui vous qualifiera de professionnel.
Notons que cette rencontre a été initiée par les collectifs des radios et télévisions communautaires du Nord Kivu, Korakan, Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Insécurité à Kwamou dans la province de Maïndombe. Les opérations militaires s'intensifient dans ce territoire pour ramener l'autorité de l'État. Après avoir dégagé la nationale numéro 17, les FARDC ont également rouvert à la circulation la route principale de Massiambio à la cité de Kwamou. Le commandant de la première zone de défense adjoint, chargé des opérations et renseignements qui livre l'information, précise que pour le moment, un calme apparent est observé sur place et les assaillants se sont éloignés. Le général-major Hugo Ilondo Fondo explique la situation au micro de Irène Boma.
Au départ, c'était un simple conflit qu'on croyait entre les Teke et les Yaka. Nous avons envoyé une unité à terme de peloton au niveau du secteur de Ntoua pour faire face à cette situation. Mais le problème a dégénéré. Il y a eu des tueries. C'est la raison pour laquelle l'hiérarchie militaire a décidé de renforcer les effectifs des militaires ici. Donc, je suis arrivé moi-même. J'ai amené le deuxième bataillon au combat des Jeng pour renforcer déjà les bataillons qui étaient ici à Kwamoutou et continuer à faire les opérations de bouclage et de patrouille de combat pour rétablir l'autorité de l'État ici à Kwamoutou. Sur place, pour le moment, la situation est calme par rapport à il y a 2 mois. Nous avons réouvert l'axe Bandundu sur National 17. Maintenant, les véhicules peuvent passer, comme vous avez constaté. Nous avons aussi ouvert l'itinéraire Kwamoutou. Ici, nous sommes à Massiambio, donc il fallait aussi ouvrir l'itinéraire jusqu'à Kwamoutou, vers le fleuve. Pour le moment, les assaillants ont fui. Ils sont partis en profondeur vers des fermes très éloignées dans la forêt et nous essayons de les traquer pour ramener et rétablir l'autorité de l'État.
Ici à Kinshasa, sachez que 7 mélomanes et un policier sont morts hier samedi dans une bousculade lors du concert de la star congolaise Fally Ipupa au stade des Martyrs de la Pentecôte. La police, citée par l'agence congolaise de presse ACP, précise qu'après la fin du spectacle, des bandits appelés Kuluna ont aussi attaqué la foule, provoquant désordre et panique au sein de la foule. Noëlla Luzi Tukabambi nous raconte.
Selon le général Silvano Kasongo, commissaire provincial de la police cité par l'ACP, il y a eu 8 morts, dont un policier et 7 civils, dans le concert du chanteur Fally Ipupa au Stade des Martyrs, stade qui dispose de 80 000 places pour les spectateurs. C'est une bousculade qui est à la base de ces décès. Les mélomanes étaient étouffés, a précisé un officier de la police présent au stade. À deux reprises, deux ambulances ont transporté des personnes apparemment évanouies, a constaté une équipe de l'ACP. Et un des spectateurs a déclaré à l'agence congolaise de presse que toutes les places assises étaient occupées, mais il y avait des spectateurs collés les uns aux autres jusque dans les couloirs. La pression de la foule a même fait céder trois cordons de la police déployés pour sécuriser la pelouse, la tribune VIP et le podium sur lequel se produisait Fally Ipupa. Ce dernier est arrivé au stade plusieurs heures après l'heure prévue, alors que le stade était rempli avant 16 heures, heure prévue pour les débuts du spectacle. À cela, il faut ajouter l'insécurité totale qui a témaillé la fin du concert de l'artiste Fally Ipupa. Des attaques de bandits appelés Kuluna ont provoqué des mouvements de foule, sémant désordre et panique, affirme la dépêche de l'agence congolaise de presse.
Actualité internationale.
En Somalie, le bilan s'alourdit au lendemain du double attentat à la voiture piégée qui a frappé hier à quelques minutes d'intervalle Zobé, un carrefour animé du centre de Mogadiscio, la capitale somalienne. Le nouveau bilan officiel fait état d'au moins 100 morts et 300 blessés alors que les rescapés sont encore sous le choc et les hôpitaux sont à la peine, signalent des sources sur place. En Afrique du Sud, c'est en chant et danse dans le stade Moses des Durban que s'est déroulée hier l'intronisation officielle du nouveau souverain des Zoulous. Il s'agit de Misuzulu Zulu, âgé de 48 ans. Il succède à son père, le roi Zwelithini, décédé en mars 2021 après plus de 50 ans de règne.
L'invité.
Il nous vient du Sud Kivu. 10 chefs d'établissement scolaire sont suspendus de la province éducationnelle Sud Kivu 1 en une semaine. Des suspensions qui interviennent après le travail sur terrain effectué par des commissions mises en place pour identifier et sanctionner les auteurs des antivaleurs. Pourquoi avoir mis en place ces commissions? De quoi sont reprochés les chefs d'établissement suspendus? Réponse à ces questions et à d'autres avec le proved Sud Kivu 1, Simon Zono, répond aux questions de Rachel Kiesé.
Proved Simon Zono, bonjour.
Bonjour, Madame Rachel.
Parlez-nous de ces quatre commissions mises en place pour l'ensemble des entités éducationnelles de la ville de Bukavu en vue d'identifier et de sanctionner les auteurs des antivaleurs.
Nous avons constaté qu'il y a une sorte de réticence de la part de certains chefs d'établissement qui restent réfractaires à cette norme édictée par le niveau national. Et c'est ainsi que nous avons capitalisé les dénonciations de la société civile et des parents pour mettre en place quatre commissions, spécialement pour la ville de Bukavu, parce que dans les sous-divisions de l'intérieur, nous n'avons pas de plaintes. Mais dans les quatre sous-divisions de la ville, les langues se sont déliées pour dénoncer la violation intentionnelle de cette mesure de la gratuité.
Comment évoluent ces commissions sur terrain?
Ces commissions fortes, chacune de 5 membres, sous-provèdent les 2 inspecteurs chefs de poule primaire et secondaire, un inspecteur itinérant du primaire, un autre du secondaire. Ils sillonnent les écoles au su des dénonciations des parents. Ils y arrivent, ils font des investigations et lorsqu'ils ont des preuves, les inspecteurs prennent des mesures conservatoires pour suspendre les chefs d'établissement fautifs. Et il appartient aux gestionnaires de ces écoles-là, dont les chefs d'établissement sont fautifs, il leur appartient, après 1, 2 mois, ou même 3 mois, de clôturer en bonne et due forme ce dossier-là par l'une des 4 sanctions prévues par les statuts du personnel ou des services publics de l'État. Ça peut être une exclusion temporaire d'un mois ou de 3 mois avec privation de salaire. Ça peut être le blâme ou ça peut être même la révocation.
Pour le rapport à mi-parcours de ces commissions que vous avez sorti ce mercredi, une liste des chefs d'établissement suspendus du 10 au 25 octobre. Pour quels motifs sont-ils suspendus?
Ils se sont permis, ces chefs d'établissement-là, de défier l'État en percevant des frais aux primaires publics. Et il y en a qui sont suspendus pour avoir violé l'arrêté de son excellence, monsieur le gouverneur de province, en exigeant des frais autres que ceux qui sont prévus dans cet arrêté-là. Et il y a 2 parmi eux qui ont exigé des frais d'inscription des candidats qui ont échoué à l'examen d'État 2022. C'est immoral, c'est incivique. Et non, on devait réprimer ça. Mais aussi, je voudrais, à travers votre micro, demander aux gens de rectifier les tirs. Si nous aimons notre province, si nous aimons notre pays, si nous aimons les enfants que les parents nous confient, mais nous devons mettre en exécution les normes, les instructions que l'État nous envoie. Nous devons alléger la charge financière des parents pour que les enfants viennent nombreux à l'école, pour que nous les formions afin de mettre à la disposition du pays et de la province un capital humain, compétent, compétitif, qui va prendre en charge le développement de ce pays. L'éducation en milieu scolaire commence par l'accès. Et si nous mettons un verrou à ce niveau-là, pour empêcher aux enfants de familles démunies d'accéder à l'école, alors c'est un sacrilège que nous commettons.
Pour finir, êtes-vous sûr que la suite se fera même pour les écoles catholiques?
Oui, mais parmi ces écoles, il y a des écoles catholiques. Mungu est école catholique, Nyalukemba est école catholique, Wima est école catholique, Kataliko est école catholique. Toutes ces écoles-là sont des écoles nationales, sont des écoles publiques. Et c'est l'État seul qui en est le propriétaire exclusif. Même si l'État a signé des conventions avec les églises pour la gestion au quotidien de ces écoles. L'Église et l'État doivent regarder vers la même direction pour la formation de l'enfant. Et les inspecteurs, ils interviennent comme œil et oreille de l'État. Donc, que nous puissions travailler dans l'harmonie, s'il vous plaît, pour que nous puissions tous ensemble concourir à cette formation de qualité.
Prophète Simon Zono Ingale, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, Rachel, pour m'avoir tendu votre micro afin d'exhorter tout le monde à comprendre que notre passion, c'est l'éducation de la jeunesse.
Voilà, notre invité répondait aux questions de Rachel Kiesembangu. C'est la fin de ce journal, coordonné, supervisé par Pierrot Elamengi et Noéla Luzito, à la mise en onde Mimi Kindou et Belinda Bosuma vous l'a présenté. Merci d'avoir été des nôtres.